en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Pierre Schoendorfer, bonjour.
Bonjour.
Nous allons vous tailler un habit vert. Nous allons faire votre portrait. Alors, écoutez, vous avez maintenant 20 ans, 4 fois plutôt qu'une, ou à peu près. Et vous voilà encore en uniforme sur un front. On ouvre un magazine très connu et on vous trouve en treillis ou à peu près. Pourquoi ?
Vous parlez de l'Afghanistan ?
Oui.
Parce que, d'abord, j'ai été invité par le premier régiment de chasseurs parachutistes dont je suis première classe d'honneur. Et que ce régiment, je l'ai connu d'abord en Indochine, il y a plus de 50 ans. Et c'est un superbe régiment. C'est le premier régiment de parachutistes français dont la source était les aviateurs. Il appartenait à l'armée de l'air avant d'appartenir à l'armée de terre. Enfin bref, c'est des détails. Mais bref, je suis très heureux, très fier d'être leur première classe. Et ils m'ont dit, voulez-vous aller nous voir sur le terrain ? Deux compagnies ou trois compagnies étaient en Afghanistan. Et on m'a demandé si je voulais bien les voir. Et donc, je suis parti. Et il se trouve qu'il y a aussi plus de 50 ans, j'avais été en Afghanistan avec Joseph Kessel.
Oui.
Et que c'était une espèce de rencontre de plus d'un demi-siècle.
Et alors, est-ce que pour vous, l'état d'esprit des hommes a changé ?
L'état d'esprit des hommes, je les ai pas beaucoup côtoyés, les Afghans. Je les ai croisés. J'ai croisé les interprètes. Si, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fasciné, c'est le conservateur du musée de Kaboul. Parce que, après le passage des Huns, c'est-à-dire des talibans, qui avaient tout brisé, il a réussi pendant un certain temps à cacher un certain nombre des statues qu'il avait. Et en ramassant les miettes que voulaient disperser des talibans, on dit, mais il n'y a plus rien à prendre là-dedans, ne les dispersez pas, on en aura besoin pour. Il a reconstruit un certain nombre de choses comme un puzzle, avec des pièces qui n'avaient pas la taille d'un cent.
Ah oui, oui, oui.
Ça, je trouve ça extraordinaire, parce que après avoir été ravagé et, dirais-je, brûlé, il y avait, dans la nuit qui était préparée, il y avait quand même cette petite bougie de foi en leur passé. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Alors après la destruction, la mémoire. C'est d'ailleurs tout votre travail aussi.
Oui, c'est pas ça, mais je veux dire, il y a une des expressions communistes que je trouve la plus abominable, c'est « du passé, faisons table rase ».
Ils ont pas mal réussi.
Bah, oui, mais ce qui est magnifique, c'est que ils ont fait la table rase et que toutes les petites plantes continuent tout d'un coup dans le béton qu'ils ont appliqué, percent le béton ou des petites bougies dans la nuit.
Alors, c'est un peu, au fond, une phrase très, très bonne pour introduire toute votre carrière, hein, Pierre Schoendorfer. J'ai vu que vous étiez né, parce que commençons par le commencement. Si c'est le commencement, on ne sait pas si c'est le commencement. Vous êtes né, je ne savais pas, peu de gens le disent, dans la ville de Giscard, à Chamalières.
Oui.
C'est sans doute la seule chose que vous ayez.
Elle n'était pas à ce moment-là, la ville de Giscard. Elle est venue. Oui. Non, il se trouve que, voilà, moi je suis alsacien, et de famille alsacienne de part et d'autre.
Et ça veut dire, votre nom est magnifique, il veut dire le beau village.
Joie, le beau villageois.
Ah, le beau villageois, pardon, Schoendorfer,
voilà, oui. Voilà. Mm-hmm. Et des deux côtés, ce sont les Alsaciens qui, en 1871, après la guerre franco-prussienne de 70, ont quitté l'Alsace parce qu'ils ne voulaient pas devenir allemands. Donc, du côté maternel, ils sont venus s'installer à Paris. Du côté paternel, qui était un polytechnicien, il a été dans un certain nombre de ville, mon père est né à Besançon. Moi, je suis né à Chamalières parce que mon père était chez Michelin à l'époque, qui était Clermont-Ferrand. Enfin, bref, voilà. On est des Alsaciens de la France de l'intérieur, comme on dit.
De la France profonde, oui.
De l'intérieur.
De l'intérieur, pardon.
C'est ce qu'on dit.
Oui, oui. Mais alors, donc, votre vie aurait été peut-être villageoise si vous n'aviez pas rencontré dans vos lectures Kessel. C'est ce que vous dites du moins. Et ouais. D'ailleurs, j'étais très frappée quand vous êtes interrogée, vous parlez beaucoup de vos lectures. Plus que des rencontres avec des gens, enfin, certainement il y en a eu, mais vous parlez beaucoup de Kessel, de Conrad.
Oui, je veux dire
de
que...
De plusieurs livres.
Un certain nombre d'écrivains, dont certains, comme Kessel, les Déconnus vivants, et d'autres, étaient morts avant que je naisse et parlaient même une autre langue que la mienne, sont des écrivains qui ont infléchi ma vie, qui l'ont, ils m'ont poussé dans une direction qui m'importait puisque je me suis laissé pousser. Et aucun autre art n'a infléchi ma vie. Seulement la littérature. J'ai été enchanté par la peinture, la sculpture, la musique.
Même pas le cinéma américain.
Mais ça n'a pas infléchi, ça n'a pas changé. Ça ne m'a pas changé, ça ne m'a pas poussé comme là, je pousse, j'ai une tasse de café devant moi, comme je la pousse légèrement. Eh bien, c'est aucun autre art n'a infléchi ma vie.
D'ailleurs, vous êtes à l'Académie des Beaux-Arts, mais vous auriez presque pu être à l'Académie française. Vous avez d'abord reçu le Grand Prix de l'Académie française, vous-même, et vous écrivez des livres magnifiques, puisqu'il y en a, d'ailleurs, Le Crabe Tambour, je crois que c'était un livre avant que d'être
absolument,
un film.
Absolument, hein. Oui.
Donc, vous êtes tout autant, ce qu'on sait peu, parce qu'on vous a découvert, enfin, j'ai découvert, comme tout le monde, je vous avais découvert à la 317e section, et puis...
Comme cinéaste,
oui. Enfin, je vous avais découvert, j'avais découvert votre nom, même. Hein. Donc, on vous découvrait comme cinéaste avant de vous découvrir comme écrivain. Et je crois que c'est avec L'Adieu au roi que je vous ai découvert comme écrivain, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Et puis, on est remonté. On s'est dit, oui, il y a autre chose aussi. Est-ce que vous considérez aussi, ou d'abord, comme écrivain ?
Je voudrais me considérer d'abord comme écrivain. Si vous voulez, quand j'ai décidé de devenir cinéaste, j'étais, parce que toute mon enfance, j'ai voulu être marin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est né en moi, mais je voulais être marin. Et ça, bien sûr, ça a été alimenté par toute la littérature que j'ai lue.
Melville
Oui, et puis L'île au trésor de Stevenson, Jack London, Conrad, un peu plus tard, parce que Conrad c'est pas pour quelqu'un
Conrad,
de 15 ans.
Oui,
c'est pour,
c'est
il faut avoir une certaine maturité pour lire Conrad. Oui. Enfin bref, et je ne connaissais pas la mer, je ne l'ai connue qu'après la guerre. Et puis, alors, je suis embarqué sur un bateau parce que mes études ne m'ayant pas permis de faire une école de navale ou la marine marchande, je me suis dit, bon, ben, je vais embarquer et puis je prendrai des cours
par correspondance. Sur un navire suédois, je crois.
Voilà, c'est un navire suédois. Mais enfin, bref, à un moment donné, sur ce bateau, après une année comme matelot à bord, je réfléchissais, j'étais seul à la barre, c'était une nuit tranquille, je réfléchissais à ce que pouvait être mon destin. Et j'avais envie de renvoyer un écho de ce que je ressentais. Et je me suis dit, je ne suis pas peintre, je ne suis pas sculpteur, je ne suis pas graveur, je ne suis pas musicien, je ne suis pas écrivain et je pense ne pas pouvoir l'être jamais parce que je mettais la littérature très haut. Mais après tout, pourquoi pas faire du cinéma ? Parce que j'ai vu des tas de films et ça me semble pas si difficile. Donc c'est comme ça que j'ai choisi de.
Quand même, vous avez choisi aussi le cinéma aux armées, ce qui n'était pas
non
plus.
Non, je l'ai pas choisi
d'abord
aux armées au départ.
Ah, d'abord le cinéma.
Je l'ai choisi aux armées parce que toutes les portes étaient fermées et qu'à un moment donné, je ne pouvais pas y rentrer. Le cinéma, c'est le château de Kafka, je dis toujours. Pour pouvoir y rentrer, il faut déjà être dedans. Là, toutes les portes restaient vraiment fermées, verrouillées. Et à un moment donné, je lis qu'un caméraman de l'armée s'est fait tuer, et je me suis dit, il y a peut-être une chance, peut-être que personne ne va se précipiter pour le remplacer. Et c'est ce qui s'est passé.
Bon, alors quand même, il y avait des faits sur votre histoire, parce que quand même, se retrouver en Indochine si jeune, vous avez connu au fond les guerres d'après-guerre. Et votre thème, d'ailleurs, ce sont les guerres d'après-guerre.
Oui, c'est l'ambiguïté de ce genre de guerre. C'est une chose de défendre sa patrie, hein, que ce soit en 14-18 ou en 39-45, et c'est une autre chose d'être en Indochine ou en Algérie.
Et alors, tout de suite, ça vous a frappé
je vais vous dire une chose. J'ai découvert l'Indochine. À ce moment-là, on ne voyageait pas. Hein. C'était quand même il y a très longtemps. Si les gens ne voyageaient pas, on n'allait pas pour un oui ou pour un non dans un avion de l'autre côté de la Terre.
Non, je me rappelle, oui.
Et la première chose qui m'a frappé en Indochine, d'abord, c'est la beauté du pays. Et la deuxième chose, c'est la, qui est, ça a été plus long à découvrir, c'est la qualité de ce peuple indochinois. Enfin, c'est des peuples indochinois, parce que l'Indochine, c'est, il y a le Vietnam, il y a le Cambodge, le Laos. Mais c'est la qualité de ces gens-là. C'est, le Vietnam a une histoire qui est aussi vieille que l'histoire française. C'est une civilisation qui est aussi universelle que la nôtre, différente pour des nuances, mais aussi universelle que la nôtre. Et on avait en face de nous des interlocuteurs, ceux qui étaient avec nous, et comme adversaires, des gens qui étaient quand même des gens d'une très haute civilisation. C'était fascinant à découvrir. Quand j'y suis arrivé, je ne savais pratiquement rien de ce qu'était l'Extrême-Orient et l'Asie, sauf ce qu'on apprenait à l'école. Mais quand je suis revenu...
Oui, parce que rappelons-le, vous étiez jeune quand même.
Bah oui, très jeune. Oui. J'avais 23, 24, bah oui. 25, 26 ans oui, c'est jeune. Quand je suis parti. Quand je suis revenu, je me suis plongé d'abord dans l'histoire des rapports de la France avec le Vietnam et l'Indochine, et ensuite dans l'histoire du sud-est asiatique, dans l'histoire donc du peuple vietnamien, donc forcément des peuples chinois, indiens, des peuplades des hautes montagnes. Enfin bref, je me suis vraiment intéressé à ce pays que j'avais découvert et qui m'avait fasciné, mais dont j'étais comme un adolescent qui ne sait pas. Il fallait que j'aille à l'école. Et alors mon école, je me la suis fait moi-même.
Alors, c'est drôle parce que vous en parlez en découvrant, bien sûr, l'Indochine, mais alors, ou le Vietnam, mais vous ne parlez pas, vous arrivez quand même dans la guerre.
Oui.
Or, est-ce que le fait d'avoir une caméra vous rendait plus objectif, comme le grand mot de l'époque était quand on n'était pas objectif? Enfin, est-ce que ça, l'objectif, en tous les cas, vous protégeait d'une certaine fusion avec la réalité, enfin, de...
Non, j'étais d'abord soldat. Hein. Mm-hmm. Et j'étais caporal et caporal-chef, donc un niveau tout à fait modeste. Et je me sentais très solidaire des unités dans lesquelles j'étais parce que ma survie en dépendait, de même que moi, le cas échéant, je pouvais leur apporter quelque chose quand il y avait des accrochages, si vous voulez. Alors, bien sûr, j'avais mon regard, je regardais, et j'étais effaré et épaté et troublé et terrifié quelquefois par ce que je voyais, mais jamais, jamais horrifié. C'est-à-dire, je n'ai pas vu d'horreur, sauf les horreurs de la mort et de la boucherie que faisait une explosion de mortier ou... une artillerie ou même du napalm,
c'est déjà pas mal. Oui,
oui, oui, oui.
C'est déjà
oui.
Ça.
Oui, non, mais le pire, c'est pas ça, c'est de faire souffrir quelqu'un pour gratuitement. Ça, c'est ça. Le pire, c'est ce qu'on appelle la torture ou le. Oui, ça, c'est vraiment le pire. Le reste, ça fait partie des choses de la guerre, mais par contre, la torture, non, ça, c'était.
Vous l'avez abordé beaucoup plus tard, d'ailleurs, sujet.
Parce que c'était pas en Indochine. Oui. Moi, je ne l'ai pas vu.
Oui.
Alors,
oui.
Peut-être que j'étais pas aveugle, j'étais très curieux de tout. Je ne l'ai pas vu. C'est pas la même chose pour la guerre
d'Algérie.
Mais en Algérie, je n'étais plus un soldat, j'étais un journaliste à ce moment-là.
Oui, donc vous le ressentiez différemment, nécessairement.
Oui, les rapports ne sont pas les mêmes.
Oui. Hein. Bon, et donc vous avez fait là-dessus, après la 317e section qui raconte l'Indochine.
Une petite histoire,
bien
c'est
sûr.
Une section.
L'histoire de 40 personnes dans la jungle, enfin, oui. Oui. Il y a donc eu l'honneur d'un capitaine. Et là, c'est vraiment, votre grand sujet devient, et l'honneur, c'est l'honneur au fond, votre grand sujet, non?
Enfin, ça fait partie, ça fait partie des choses qui m'importent. Si vous voulez, l'honneur, les gens ne savent pas très bien comment le définir. Par contre, ils savent
alors,
très bien.
Alors, donnez-moi une
attendez,
définition.
Ils savent très bien ce que c'est que le déshonneur.
Oui.
Et
oui.
Même les petits voyous, tout ça, ils ont leur code d'honneur qui n'est pas notre code d'honneur, mais qui est un code d'honneur.
Qui serait celui de la mafia.
Et quand ils l'ont perdu, ils savent très bien qu'ils sont déshonorés. D'ailleurs, ils le payent très cher dans leur petit gang. Vous voyez. Donc, le déshonneur, on sait ce que c'est. Donc, ça veut dire que l'honneur existe.
Alors, nous allons nous interrompre quelques minutes, Pierre Schendorfer, avant de reprendre.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Pierre Schoendorfer, donc nous reprenons et vous alliez me dire, vous m'avez parlé du déshonneur et du fait qu'on peut le définir, mais j'aimerais bien que vous me définissiez, vous, et que vous me donniez, vous, votre définition de l'honneur. Car c'est peut-être bon à rappeler à nos contemporains.
Il y a la fameuse phrase de Ponce Pilate, quand le Christ lui dit la vérité, et Ponce Pilate dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que l'honneur? L'honneur, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est le respect qu'on a de soi-même et des autres, hein, parce que c'est pas seulement soi, c'est l'ensemble de la communauté humaine dans laquelle on est. Et voilà, c'est beaucoup plus facile à définir par le contraire qu'est le déshonneur, comme la vérité est beaucoup plus facile à définir par le mensonge. Hein. La vérité, on pense qu'il y a plusieurs versants de la vérité suivant l'endroit où on est et la manière dont on regarde. Si vous voulez, il y a une sorte de relativité einsteinienne.
Oui, mais alors l'honneur était un sujet...
L'honneur, il n'y a pas de nuance. Il y a un moment donné, les gens savent qu'ils ont perdu leur honneur.
Quand on parle du film comme Karl von Stroheim...
Oui, magnifique film de Renoir, La Grande Illusion.
La Grande Illusion.
C'est un des plus beaux films de Renoir pour moi.
Oui, alors voilà, c'est donc ce sujet de l'honneur. Et ce sujet même, dans le cinéma, dans la littérature et partout, n'est plus abordé, ne se voit plus, ne se lit plus. Est-ce que c'est un sujet qui serait désuet?
Moi, je ne sais pas. C'est vrai qu'on... Mais enfin, chacun raconte sa petite histoire, qu'elle soit écrite.
Je ne le crois pas, je ne crois pas du tout que ce soit désuet, oui.
Mais enfin, non, ça fait partie des nécessités de la vie. Il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires à la vie et l'honneur en fait partie.
Est-ce que vous n'avez pas vécu aussi à une époque où il y avait des gens comme précisément Kessel dont nous parlons et des gens
avait le sens
d'une envergure,
de l'amitié,
oui,
et de la charité, de la joie communicative et de la curiosité. Et ça, c'est une des choses essentielles dans l'homme. L'homme est devenu un homme et continue à avancer, même si on ne sait pas où il va aller, à cause de la curiosité. On dit que la curiosité kill the cat, tue le chat. Mais par contre, ça fait avancer l'humanité.
C'est peut-être ça que nous avons oublié de regarder, c'est la curiosité, puisqu'on nous offre tout aussi. Maintenant, tout est par écran interposé. On a Internet, on a la télévision, on a donc par écran interposé toute la pseudo-vérité, évidemment.
Oui, mais enfin, il y a quand même la curiosité des gens qui se penchent sur Internet. Moi, je n'ai pas d'Internet et c'est pas, c'est plus de ma génération. Moi, je suis de l'arrière-garde. J'en suis encore au téléphone qu'on décrochait en disant « je voudrais le 22 à Asnières ».
Oui, ce n'est qu'une technique.
Non, je plaisante
pas très grave,
un peu.
Oui.
Mais
ma question est plus sérieuse, c'est est-ce que profondément tous les grands reporters que nous avons connus et nous en avons connus, auxquels je veux rendre hommage puisque nous en parlons aujourd'hui, qui a été votre scénariste aussi dans Le Crabe Tambour, c'est Jean-François Chauvel.
Oui.
Est-ce que cette grande période des grands reporters, des gens qui partaient, qui vous racontaient, qui vous faisaient rêver pendant des heures sur les princes, les rois, le désert, le souffle du vent...
Oui, Albert Londres,
l'ancêtre étant Albert Londres.
Voilà, enfin, c'est pas l'ancêtre, il y en avait eu avant... Mais c'est lui, à la charnière 19e, 20e siècle, a donné le ton, puisqu'il y a même un prix, Albert Londres.
Mais justement, alors est-ce qu'on peut encore rêver? Moi, je connais beaucoup de jeunes journalistes et de jeunes gens qui désespèrent de ce grand reportage.
Dommage. Il se trouve que moi, j'ai eu l'avantage, ou le privilège, si vous voulez, de pouvoir faire un certain nombre de reportages avec une sorte de carte blanche, liberté de manœuvre. Je sais que, par exemple, j'ai fait un film documentaire.
La section Anderson,
Oui. que j'ai tourné au Vietnam avec une section américaine. Et j'avais été voir Pierre Lazareff, qui était à ce moment-là le patron d'une émission retentissante, qui était 5 colonnes à la une.
Tu me le fais, Coco.
Et je lui avais dit, voilà, j'ai fait la 317e section, qui était une œuvre de fiction, que beaucoup de gens prennent presque pour un reportage, mais c'est une œuvre de fiction, c'est construit. Je voudrais savoir si, en suivant une section, on n'a qu'une série d'anecdotes qui s'enfilent les unes après les autres sans signification, ou bien si de cette quête derrière eux, on approche aussi un petit peu le mystère de la condition humaine. Alors, il a dit, ça, c'est une idée qui me plaît, liberté de manœuvre. Donc, je suis parti au Vietnam, j'ai eu le temps, parce qu'il faut du temps. Pour
film, il faut dire, couronné par tous les awards, oui, par oui, Hollywood, oui, etc.
Oscar.
Même oui,
non, Oscar oui. Et
c'était
Award,
l'Oscar,
parce
oui.
que j'ai eu l'Emmy Award et l'Oscar.
Ah oui, le RED, attendez, j'ai tout marqué, parce qu'il y en a beaucoup, Oscar oui, Hollywood, oui. International Emmy Award, RED Ribbon Award, Merit Award de la BBC voilà, et le prix oui. Italia. Alors oui. là, vraiment, ça a tout raflé.
Voilà.
Hein, tout raflé, c'était en 67. C'est d'ailleurs assez prébonitoire, si je puis dire. C'était la veille de 68.
Voilà, c'est ça.
C'était oui. la veille de l'effondrement
oui.
d'un monde.
Oui, oui exactement. Il y a eu une crise qui a démarré juste après quasiment la projection du film, j'entends par là. Mmh. Un mois après, on était en mai, il a dû sortir en mars ou avril, à la télévision française. Et en mai, il est repassé à la télévision française après avoir reçu son Oscar 5 colonnes à une, l'a oui. remis. Donc, il a eu deux
passages.
Deux passages, oui.
Oui, mais n'oubliez pas aussi qu'en mai 68, on oublie de le dire, il y a eu les Tchèques qui ont sauvé l'honneur quand même. Précisément, vous disiez de la mémoire, faisons table rase. À la même époque que nos enfants gâtés arrachaient les pavés de Paris, les jeunes Tchèques se faisaient brûler. Il y avait Jan Patochka qui se faisait brûler au nom de la liberté.
Les Polonais aussi. Non, il y avait, bien sûr, là, ils étaient sous un boisseau, là, et la marmite bouillonnait différemment de la nôtre.
Oui.
De l'autre, c'était une farce, en définitive, mais 68.
Mais donc, ça s'est déporté.
Tandis que, de l'autre côté du rideau de fer, c'était pas une farce.
Alors, rappelez peut-être le mot magnifique, comme on parlait d'honneur de Lattre, quand son fils Bertrand est mort. Vous rappelez ?
C'est légèrement différent. Il voulait nous faire comprendre définitivement que ce n'était pas une guerre coloniale que nous menions. C'est pour conserver des avantages et des privilèges sur le...
Acquis, on entend ça récemment, oui.
Et pas acquis, non, qu'on avait...
Oui,
qu'on avait... Alors, pour nous faire bien comprendre à nous autres soldats, il a dit, quand son fils unique a été tué sur un piton dans le Delta, à Nimbin, il a dit, Bernard, c'est le nom de son fils unique, Bernard n'est pas mort pour la France, il est mort pour le Vietnam. C'était pour nous apprendre quelle était notre place dans cette bataille que menait ce qu'on appelait le corps expéditionnaire.
Oui,
je trouve ça très juste et très, très bien. Parce que les Américains ont considéré toujours jusqu'au bout qu'on menait une vieille guerre de colonialistes. C'était pas tout à fait juste. Je veux dire, la politique française était très médiocre là-dessus. Mais au niveau auquel moi j'étais en participant à cette guerre, c'était pas ça.
Et pour vous, aujourd'hui encore, ça n'est pas ça.
C'est-à-dire que c'était pas...
Vous n'avez pas participé à des guerres coloniales comme on le raconte aujourd'hui, je veux dire. Est-ce que la mémoire...
Non, je veux dire, ça dépend comment les gens la regardent. Mais moi, je sais
que en
mon âme et conscience, c'était pas une guerre coloniale, mais c'était une... Derrière, il est mort pour le Vietnam, et ceux qui sont morts en Indochine, mes camarades, sont morts pour le Vietnam, mais ils sont morts aussi pour la France. Parce que c'est la France qui les avait envoyés, là. C'est subtil, mais c'est important de dire... Delatte voulait marteler quelque chose, mais fondamentalement, bien sûr, ces gens-là sont morts pour la France aussi. Même les Vietnamiens sont morts pour la France, mais ils sont morts pour le Vietnam.
Et quand vous êtes revenu et que vous avez entendu les Boudarel parler, est-ce que c'était la même histoire ?
Non, quand je suis revenu, oui. J'étais considéré comme un colonialiste... Donc, forcément d'extrême droite, puisque j'avais été en Indochine. Et en plus, engagé volontaire et tout ça. Bon, non, j'ai eu ma ration de mauvais esprit sur mon dos. Là, on m'a... Mais enfin, bref, vous savez, j'ai une peau de crocodile.
Il faut
une peau
de crocodile. Oui. Dans... Et surtout, vous avez des très beaux livres. C'est-à-dire...
Non, je vais vous dire une chose. Oui. Et puis, quand j'ai fait mon premier film sur l'Indochine, qui était donc, la 317e section, il y avait un très grand journaliste qui était au Nouvel Observateur, qui s'appelle Cournot, qui était un très grand critique de cinéma. Et Cournot a fait un papier qui était un poème sur le film.
Mais Cournot n'était pas d'extrême droite.
Non, voilà, c'était des gens plutôt de gauche. Et là, ça a totalement désarmé parce que... Et tout à coup, ça a permis aux gens de le regarder sans avoir un arrière-plan politique en disant « Ah, c'est un homme de droite, donc pas un homme convenable. »
Oui, alors que vous avez extrêmement peu, justement, de jugement dans vos films comme dans vos livres. Oui. C'est pas politique, ça l'est toujours, mais enfin, vous n'avez pas de jugement.
Depuis mai 68, on dit que tout est politique. Mais non, ça c'est vrai, mais non, parce que c'est pas mon problème.
Oui, c'est pas votre problème, plus exactement. Voilà. Alors, il y a un livre magnifique qui s'appelle donc « L'adieu au roi ». Qui, lui, a été publié chez Grasset, mais qui a eu surtout le Grand Prix Interallié. Je cherchais la date. Voilà. Pas bon. Où c'est une toute autre histoire, donc, parce que c'est un soldat américain qui échappe aux Japonais.
Non, c'est un Anglais.
C'est un
Anglais qui est irlandais, d'ailleurs, de source, mais qui est dans l'armée britannique, qui, après la chute de Singapour, arrive à Bornéo et s'enfonce à l'intérieur de l'île de Bornéo. Oui. Dans des populations qui étaient méconnues de un peu de tout le monde. Et il est sauvé, au lieu de mourir, il est sauvé. Et finalement, il finit par se croire le roi parce qu'il les organise, il leur donne un certain nombre. Bref, mais...
C'est
un roi, oui.
Mais alors, justement, il y a des passages qui me font songer, je ne dois pas être la première d'ailleurs, à Kipling.
Kipling est un de mes maîtres. Oui. Mais Conrad aussi, comme...
c'est plus Kipling, parce que là, l'homme qui se croyait roi...
L'homme
qui voulait être roi,
Mais ça n'a rien à voir avec... Non, rien à voir, sauf le titre, le roi.
Hein,
Mais
il y a des accents, je trouve, kiplingiens dans votre...
Sans doute, parce que Kipling est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je lis, j'aime ses poèmes, j'aime ses épitaphes. Et il a une épitaphe que je trouve absolument extraordinaire sur la guerre. Il avait perdu un de ses fils, et qui en anglais est « If any question why we died, tell them because our fathers lied. » Si on vous pose la question « Pourquoi sommes-nous morts ?» Dites-leur, parce que nos pères nous ont menti. Et je trouve que c'est plus élégant en anglais, parce qu'il était un poète, et je trouve ça très juste et très puissant. Il en a une autre sur la sentinelle endormie, est aussi magnifique, mais je ne la connais plus par cœur. Je la connaissais par cœur, mais puis mon accent anglais n'est pas très bon.
Oui, ça va très bien. Bon, Pierre Schoendoerfer, on s'interrompt encore quelques minutes avant de reprendre les dernières questions. Merci.
Vous écoutez Canal Académie.
Alors, Pierre Schoendoerfer, nous nous retrouvons pour votre habit vert. J'aurais aimé que vous disiez un mot quand même du Crabe Tambour, qui est un de vos, enfin, à mon avis, votre chef-d'œuvre. Bon, enfin, ça n'engage que moi, donc bon.
Ça me fait plaisir d'entendre le mot chef-d'œuvre.
Ah oui, oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
C'est un film qui a été une aventure pour l'écriture, une aventure intérieure, parce que j'ai écrit le roman d'abord. Et ensuite, mon producteur, avec qui j'étais en difficulté depuis 11 ans, m'a dit « Mais on va en faire un film ». Je lui ai dit « Mais non, ça, c'est vraiment un roman ». Et bref, il me convainc, et on fait le film. Et ce fut une aventure extraordinaire de faire ce film. Parce qu'on a tourné dans un certain nombre d'endroits, d'abord sur un bateau pendant 7 semaines dans l'Atlantique Nord en hiver, avec des comédiens magnifiques.
Alors, c'était vos comédiens fétiches, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous avez votre bande, quoi. Comme on dirait aujourd'hui.
Il ne faut pas dire ça, parce que Jacques Perrin, très bien, j'avais fait un certain nombre de films avec lui déjà, mais Rochefort, c'était la première fois.
Oui, c'est vrai
qu'il
n'y avait pas
Crémer. C'était la première fois. Oui. C'est pas l'idée de clan, de bande, non. Non, ça a été une aventure formidable parce que ce sont des grands acteurs, en tout cas ceux qui étaient à bord du bateau, Claude Rich, qui est un acteur.
Ah oui, puis ils ont fait une création incroyable.
Rochefort et Dufilho. Un acteur peut dire, écoutez, moi je suis pas un homme de cirque, je suis pas sur un plateau qui bouge dans tous les sens, moi je ne tourne pas comme ça. Il pourrait le dire. parce qu'il faut, un acteur a besoin de se concentrer. Il lui faut un courage extrême pour incarner le personnage dont il a rêvé en lisant le scénario ou le livre. Eh bien non, les gens ont dominé les malaises qu'ils pouvaient avoir sur ce...
Et Perrin a fait une création incroyable.
Oui,
en plus.
Mais oui. Lui, Perrin n'a jamais été sur le bateau.
Mmh. Ah oui, oui.
C'était celui dont
vrai.
On parlait.
C'est vrai, c'est vrai.
Il était ailleurs, oui. mais jamais sur le bateau.
Mais il a fait une création incroyable.
Oui, oui.
Incroyable.
Mais
Rochefort et Dufilho étaient fantastiques. Oui,
oui. Oui.
Et alors, il y a ce passage magnifique, c'est bien dans le Crabe Tambour, oui, c'est dans le Crabe Tambour, où tout d'un coup, il y a un signe dans le ciel, c'est l'avion qui... Non, alors, il y a un signe, ça c'est magnifique.
Le doigt de Dieu.
Le doigt de Dieu, oui, parce qu'il faut dire donc qu'il y a tout un...
Raconter
le petit passage,
voilà,
c'est magnifique.
C'est Dufilho qui est un chef mécanicien qui boit un petit peu et qui est un breton un peu mystique. Un peu,
comme tous les Bretons.
Et il raconte une histoire... En parlant de l'histoire d'un curé qui a emmené ses ouailles derrière lui parce qu'il avait eu un rêve et qu'il avait vu le doigt de Dieu lui montrant la direction dans laquelle il devait marcher. Il raconte ça avec sa foi. Et puis les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de doigt? Tu nous racontes des histoires. Et il dit, mais regardez, levez le nez, regardez. Et à ce moment-là, il y a un avion de transcontinental.
Qui laisse une trace blanche.
Qui laisse la trace blanche. Et il dit, voilà.
Et tout le monde suit. Et tout le monde suit cette trace.
Comment voilà. Ça le suit? Enfin, c'est à la fois une légende, une farce,
bien
une
sûr.
Fable.
Bien sûr.
Voilà. Mais il le fait magnifiquement bien, Dufilho.
Mais je dis ça parce que c'est un peu le résumé de. Je ne sais pas si c'est Dufilho qui le fait.
Non, celui qui raconte l'histoire, c'est Dufilho, et celui qui incarne le curé, c'est la Jarige.
Ah oui, alors on a entendu une petite voix là, toute petite. C'est Madame Jeanne d'Enfer, alias Pat Chauvel, puisqu'elle est journaliste. Hein. Et si elle intervient comme ça en fin d'émission, c'est qu'elle est intervenue au fil des 50 ans de vie commune.
Voilà, de mariage.
50 ans à demi.
De vie commune, on peut mettre un homme
vous.
Plus avant.
Un homme comme vous.
Eh oui, un vieux protestant comme moi et une vieille catholique comme elle. On a commis le péché avant de
Bon, ça alors un demi-siècle. Et alors donc, si bien sûr Pat Chauvel est là, c'est non seulement parce que sa personnalité et son œuvre à elle y poussent, mais parce qu'elle est sur la lame de son époux. Alors dites un peu quelle est l'épée, parce que vous avez une épée absolument extraordinaire.
J'ai un sabre.
Racontez le sabre.
Parce que je voulais avoir un sabre de marine. J'ai demandé au perpétuel de notre compagnie, si on pouvait faire une exception, au lieu d'avoir l'épée traditionnelle de l'académicien, si je pouvais avoir un sabre. C'est un sabre de marine, il est légèrement recourbé, c'est pas un yatagan.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais donc, c'est un sabre, je tenais. Et j'ai un certain nombre de symboles qui représentent ma vie, c'est ce qui se fait.
Oui, alors il y a bien sûr. Alors il y a la neige, vous pouvez les dire.
Alors
mémoire,
il y a sur la poignée du sabre, c'est un bambou, parce que c'est un peu l'Indochine. Sur le sommet, il y a un dragon, parce que je suis à la fois du signe du dragon dans le.
L'horoscope chinois.
Oui, c'est ça, dans l'horoscope chinois. Et en même temps, c'est le dragon d'Annam, le dragon d'Indochine. L'Indochine est un dragon. J'ai un endroit, la liste d'un certain nombre de mes œuvres. J'ai une carte de l'Indochine avec une étoile pour marquer Dien Bien Phu, qui a été quand même la bataille historique à laquelle j'ai été mêlé à ma modeste place. Et puis, j'ai un certain nombre de petits grains de riz. Ils sont les grains de riz de la survie, parce que j'ai survécu à la captivité et à la femme, à la faim. Et sur la lame, j'ai fait écrire, gravé, à Pat, mon amour et mon compagnon.
C'est superbe et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes vont t'envier, Pat. Quel effet ça vous fait de l'autre côté, finalement, d'être... vous avez l'air de considérer que tout ça, ben oui, quoi.
Ça ne m'étonne pas.
Oui, ça n'a pas l'air du tout de vous.
Ouais, ça m'étonne, mais
de vous émotionner.
Non, je l'ai eu un coup de foudre pour lui.
Oui.
mais comme ça, je ne savais même pas son nom, je ne savais pas, je ne savais rien sur lui, rien qu'à sa tête. Il est arrivé dans une, au Maroc, on venait de tuer 15 personnes et d'en blesser 50, tout le monde était très énervé, lui arrivé après, après la bagarre.
Et comme les carabiniers.
Il avait un petit bateau de dresse.
C'est à Sirat, non?
Non, c'était au Maroc. C'est au Maroc.
Avant le retour du Sud.
Et dans le groupe de journalistes qu'il y avait, il y en avait 14 et il y en avait 12 qui ont dit « Tiens, voilà Schön ». Mon frère et moi, parce que j'étais partie le rejoindre, on ne savait pas qui était Schön parce que ni lui ni moi n'avions été en Indochine, etc. Voilà. Et ce petit bonhomme avec sa caméra et son battle dress, c'était vraiment... il a pris mon cœur, voilà, à cette époque-là, le 26 juillet 1955.
Et donc, vous trouvez évident d'être sur Salam, quand même.
Oui, mais il y a des gens qui ont dit à ma fille un jour, elle les entendait parler, « Tiens, on ne savait pas que Schoendorfer était pédéraste. »
De la jaquette.
Ah bon, oui, parce qu'ils ont cru que Pat, c'était un nom de garçon.
Et mon amour, mon compagnon.
Oui,
oui voilà, mon compagnon. Parce que je ne voulais pas dire ma compagne, c'était un syllogisme. Enfin,
oh, c'est merveilleux, mon compagnon.
Oui, parce que c'est autre chose. C'est mon amour, donc, ça c'est... Mmh. Et mon compagnon, c'est-à-dire qu'on marche ensemble. Tous les deux.
Et alors, comment, en quelques mots finalement, comment vous diriez qu'il est, lui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous est resté de lui dans, comme œuvre, hein, je ne parle pas de lui personnellement. Pour vous, c'est un écrivain, c'est un cinéaste, c'est un artiste ?
C'est sûrement un artiste, mais...
C'est bien qu'on l'ait mis à l'Académie des Beaux-Arts et pas à l'Académie française ?
Ben, à l'Académie française, il faut connaître l'orthographe et ce n'est pas son cas.
dans ces émissions, nous avons quelques révélations. Bien. Alors, l'un de vos derniers livres, Pierre Schoendorfer, ça a été L'aile de papillon,
oui.
Qui est aussi très beau, qui était vers 2003, je crois. Là, c'est beaucoup plus récent.
Oui.
Est-ce que, dans votre vie, vous l'avez souvent remarqué, cette aile de papillon ? C'est-à-dire le phénomène que le battement de l'aile d'un papillon dans le golfe du Mexique, je crois.
Enfin, n'importe où. Moi, c'est dans le pays Saigon, du matin calme.
Voilà.
C'est-à-dire donc en Corée, mais ça peut être n'importe où.
Ébranle jusqu'au golfe du Mexique, oui.
Voilà, oui.
Et alors, est-ce que vous l'avez souvent remarqué, ça ? Est-ce que la vie est faite d'aile de papillon ?
Je pense que c'est à la fois faux et en même temps totalement vrai. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a une femme, dans mon livre, la patronne du bistrot, qui dit, mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que physiquement, l'amour, c'est un battement d'aile d'un papillon dans les entrailles d'une femme. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne ? Un petit chérubin délicieux qu'on tient dans ses bras. Et quelques décennies plus tard, ce chérubin, c'est qui ? C'est Staline ? C'est Hitler ? C'est...
Il y a aussi Jésus-Christ, quand même.
Oui, oui, mais encore que là, c'est Dieu. Le battement d'aile du papillon n'a pas été du même ordre.
C'est vrai. Ou alors, il y a le petit Eros qui ne grandit jamais.
Voilà, non, enfin, c'est pour dire que... Donc, quelque chose qui a l'air tout à fait banal et une petite chose peut avoir des déclenchements énormes en fonction d'un certain nombre de circonstances qui les favorisent.
Est-ce que, au fond, il y a un mot qui serait le vôtre, un maître mot de votre œuvre, de votre vie, de votre quête ?
Oui, j'ai quelque chose auquel j'ai fini par arriver, et qui est ce que je ne veux pas, je sais. Ce que je veux, je cherche.
Et vous cherchez toujours ?
Je cherche, oui.
Merci Pierre Schoendorfer. C'était Pierre Schoendorfer, Habit vert.